Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Christina Silvero. Cette semaine, nous faisons une escale féminine avec les femmes dans la diplomatie. Les questions de la participation de la femme à la société et la défense de ses intérêts sont non seulement importantes par principe, mais parce qu'elles bénéficient à tous. Ainsi, quand on éduque une fille, elle a de fortes chances de mieux gagner sa vie, d'avoir des enfants plus tard, mais aussi que ceux-ci soient en meilleure santé, vivent mieux et qu'ils soient à leur tour éduqués. Il va de même des violences faites aux femmes ou de la gouvernance. Or, force est de constater que les femmes sont largement minoritaires dans les instances gouvernantes à travers le monde et qu'hélas, l'ONU ne fait pas exception. Ainsi, seuls 23 des 193 représentants permanents et observateurs de missions auprès des Nations Unies sont des femmes. Et au sein même de l'organisation, l'accès des femmes à des postes de responsabilité semble aussi une exception. Pour preuve, sur 120 sous-secrétaires généraux, seuls 27 sont des femmes. En fait, plus on monte dans la hiérarchie et moins les femmes sont représentées. C'est pourquoi l'UNITAR, l'Institut de formation et de recherche des Nations Unies, cherche à promouvoir la présence des femmes dans les sphères diplomatiques à travers notamment l'organisation d'ateliers. Hélène Gandois, organisatrice du récent atelier de l'UNITAR, axé sur la négociation.
Le but est de leur donner les outils nécessaires pour être efficaces dans leur travail, pour négocier des résolutions et autres. Donc, nous avons fait intervenir des formateurs qui leur ont expliqué certaines techniques, etc. Donc il y avait vraiment cet aspect-là. Il y avait cet aspect aussi partage d'expérience, si vous voulez, avec des ambassadeurs plus seniors qui ont partagé leur expérience, qui ont dit comment les choses ont changé, etc. Et puis il y avait aussi l'aspect tout simplement réseau. Je pense que c'était un peu aussi un des objectifs, j'allais dire second ou autre, de cet atelier, de faire en sorte que ces femmes qui probablement d'ici quelques mois seront face à face autour de la table de négociation se connaîtront déjà et pourront réfléchir à terme dans le cadre de leur carrière à cette question du genre et cette question des femmes.
Alors, est-ce qu'il y a des approches ou des outils particuliers qui ont été prônés dans cet atelier qui visent et qui soient particuliers aux femmes ?
Nous avons eu cette formatrice, mais nous avons aussi fait intervenir des femmes ambassadrices, la représentante permanente adjointe des États-Unis, la représentante permanente du Nigeria et du Honduras, qui sont des femmes. Et je pense que c'est en partageant leur expérience qu'elles ont pu faire comprendre aux femmes, il ne faut pas être intimidée, il ne faut pas hésiter à s'affirmer, il ne faut pas hésiter à faire du mieux qu'on peut, malgré le fait que bien souvent, on est entouré d'hommes. Et je pense que c'était aussi une question de renforcer la confiance des femmes qui ont participé à cet atelier.
Pourquoi la présence des femmes est-elle importante dans les milieux diplomatiques ?
Elle est importante partout, je dirais, dans les milieux diplomatiques et autres. Et c'est surtout une question aussi de représentativité. La moitié de la population dans le monde sont des femmes. Et si on veut que ces femmes soient prises en compte au niveau des décisions politiques, il faut qu'elles soient aussi présentes au niveau diplomatique.
Est-ce que le fait d'avoir une femme à la table de négociation, justement, implique qu'elle va représenter l'intérêt des femmes ?
Pas forcément, mais elle y pensera peut-être plus souvent que les hommes. C'est aussi, je pense, un des objectifs d'ONU Femmes. Madame Bachelet, au début de l'atelier, a fait remarquer que parmi tous les processus de paix dirigés par l'ONU, aucun n'a été dirigé par une femme. Et effectivement, la logique derrière, c'est que les problèmes des femmes dans les conflits, notamment les viols, mais ça va bien au-delà des viols, seront mieux pris en compte et ça permettra aussi de relancer le pays sur un meilleur pied d'égalité, aussi en termes de développement.
S'il y avait une idée forte à retenir suite à cet atelier ?
Beaucoup d'intervenantes ont dit de ne pas hésiter et d'avancer. C'est-à-dire que la plupart des participantes étaient assez jeunes et souvent on se pose énormément de questions. Donc l'idée, c'est que vous allez faire des erreurs, c'est tout à fait normal, mais qu'il ne faut pas hésiter, il faut essayer constamment d'avancer et de toujours essayer de s'améliorer. Je pense que c'était vraiment des messages qu'elles ont pu retirer de l'atelier.
La négociation est une composante essentielle de la diplomatie. Il est donc important que ceux qui s'y dévouent disposent des meilleures techniques et outils possibles pour réussir. C'est pourquoi l'UNITAR a fait appel à Florrie Darwin, formatrice en négociation de la faculté de droit de Harvard. Elle explique les particularités liées au genre dans la négociation et son approche lors de la formation des femmes diplomates.
En fait, les recherches qu'on a faites sur les genres et la négociation indiquent qu'en tant qu'agent, c'est-à-dire de représentant, les femmes ne négocient pas particulièrement différemment des hommes. C'est pareil, c'est-à-dire que les femmes sont aussi efficaces, aussi fortes, etc. Mais dans le contexte des négociations pour soi, les femmes ont tendance à demander moins. Et en fait, ce qu'indiquent les recherches, c'est que c'est parce que les femmes ou savent ou ressentent qu'être agressive, par exemple, dans les négociations pour leur propre salaire, c'est mal vu, c'est considéré comme une brèche culturelle. Et donc, il y a eu des expériences où les sujets de l'expérience jouaient le rôle d'un patron. Et les femmes qui demandaient une augmentation de salaire étaient des actrices. Et donc, après, le sujet qui jouait le patron, on leur a demandé... Est-ce que vous appréciez la personne qui a demandé l'augmentation? Est-ce que ça vous plairait de travailler avec cette personne? Et dans le cas des femmes, en général, les patrons, soit joués par des hommes, soit joués par des femmes, ce qui m'a beaucoup surprise, étaient un peu refroidis par les femmes qui demandaient l'augmentation. Et quand les acteurs étaient des hommes qui lisaient les mêmes rôles, la réaction des patrons, entre guillemets, était plus positive. Donc, pour eux, se représenter avec force pour une femme était mal vu, tandis que pour un homme, c'était normal. Et c'est là où il y a un problème.
Alors justement, c'est surprenant, mais est-ce que cela n'a pas une incidence sur les stratégies que doivent adopter les femmes en milieu de négociation?
Oui, mais... ce qu'elle devrait faire pour combattre le préjugé qu'aurait pu avoir un patron ou la personne à laquelle elle demande quelque chose, c'est de donner une raison. Par exemple, en disant « j'ose vous demander parce que je sais que vous m'avez embauché en partie parce que je suis bonne négociatrice. Donc, je me permets de négocier pour moi-même aussi bien que pour un autre. » C'est-à-dire de souligner le fait qu'elle fait peut-être un pas hors les normes, mais pour une bonne raison. Donc, si c'est la femme elle-même qui fait référence au fait que c'est un peu extraordinaire qu'une femme soit aussi courageuse ou aussi osée, si c'est elle qui souligne ce fait... ça neutralise un peu le problème, c'est-à-dire le mauvais effet d'être, comment dire, assertive.
Mais alors... souvent, on prône la présence, justement, donc, comme cet atelier, de femmes dans les sphères diplomatiques, activement impliquées dans les négociations, et avec une idée sous-entendue que les femmes vont apporter les intérêts féminins à la table de négociation. Est-ce que cela ne met pas la femme dans une position délicate?
Alors, pour moi, ça, c'est délicat, comme vous dites. Et je trouve d'abord que tout le monde sait que ce qui se passe dans une négociation se passe seulement en partie à la table, formellement. Il y a beaucoup de négociations plus privées avant. Et je trouve qu'il faut trouver ses alliés avant de s'asseoir à la table. Parce qu'à la table, c'est trop public, c'est trop difficile. Donc, si on fait ça d'une façon moins formelle, moins officielle avant, si on voit quels sont les hommes qui sont ouverts, soit les hommes, soit les autres femmes, pour qu'il y ait une sorte de complicité avant, c'est beaucoup plus impressionnant. C'est parce que ce qui est important pour les femmes, c'est important pour tout le monde. C'est la moitié de la population du monde. S'il s'agit d'enfants, qui est souvent considéré comme un sujet féminin, bah, les enfants, ce sont des enfants à nous tous, qu'on soit femme ou homme.
Est-ce qu'il y a une approche particulière quand on vous a invité à venir parler à cet atelier, à venir former ces femmes dans le monde diplomatique? Quels sont les points auxquels vous avez pensé que je veux dire, voilà, il va falloir que je souligne surtout ces points-là?
Reste une bonne question, parce qu'il y a tant de points qui sont importants. Je crois que se connaître, ce serait le point le plus important. Qu'est-ce que je fais bien et comment est-ce que je peux augmenter les plus que j'ai déjà, profiter de ce que je fais bien déjà et comment identifier ce qui est difficile pour moi, mes faiblesses, etc., dans la négociation pour les compenser. Donc, d'abord, il faut se connaître. Il faut faire la carte de son intérieur, de ses points forts, de ses points faibles, et puis après, évoluer de là.
Quand même, tout le monde va avoir des points faibles ou des points forts, que ce soit un homme ou une femme, mais est-ce qu'il y a des points qui sont particulièrement faibles pour les femmes d'une façon générale, qui sont répertoriés ?
D'après mon expérience, je dirais non. Par exemple, avec mes étudiants à Harvard, qui sont des jeunes très intelligents et qui ont beaucoup réussi déjà dans leur vie, on fait un exercice chaque année avec les étudiants dans les ateliers de négociation où chaque étudiant identifie un problème qui, pour lui ou pour elle, est le plus difficile à surmonter. Et en général, que ce soit des garçons ou des filles, le problème, c'est assertion. Ils ont du mal à lutter pour ce qu'ils veulent, surtout quand c'est avec quelqu'un qui est dans une relation importante, soit leur mère, soit un mentor, soit un ami ou une amie. Donc, normalement, enfin, les gens qui pensent aux généralités diraient « Ah oui, pour les filles, c'est assertion, c'est de s'affirmer, l'affirmation de soi. Pour les garçons, c'est la compréhension des autres. » Mais ce n'est pas du tout le cas, parce que les relations avec les proches ou les gens qui sont importants, c'est un problème pour tout le monde.
Ce sont des dynamiques communes, enfin.
Oui, exactement.
Vous avez parlé d'un exemple donc, à la faculté de droit de Harvard. Est-ce que vous pensez que cette même dynamique tient aussi dans les sociétés en développement?
Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les sociétés en voie de développement, mais j'ai quand même fait des ateliers au Sénégal et au Congo. Et je n'ai pas vu de différence, franchement, entre le rapport femme et la négociation ou homme et la négociation. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des différences superficielles, culturelles, mais au fond, d'après ce que j'ai vu, c'est pareil partout.
C'est encourageant, peut-être.
Oui, peut-être.
Or, c'est bien connu. Lorsque l'on éduque une femme, on éduque un village. Pour mieux illustrer l'adage, on écoute Lucie Fentakoeta, chef du protocole de la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies et l'une des participantes à l'atelier de l'UNITAR.
Cet atelier, ça nous aide, en plus des réunions que nous tenons à l'ONU, ça nous aide et ça nous oriente. Et en plus de cela, nous pourrons aider nos femmes dans nos pays à travers ça. Parce que moi, en plus de ce que je fais, j'ai une entité de femmes. Et dans le milieu rural, il faut les aider. Ce que nous apprenons ici, nous devons le dispenser aussi à nos femmes dans le pays.
Alors, est-ce que vous avez un exemple concret de quelque chose que vous avez dit, ah voilà, ça, je vais pouvoir l'appliquer, je vais pouvoir le ramener et faire ceci?
Oui, justement, par exemple, où je suis dans mon quartier à Port-Bouy-Abidjan, les femmes négocient peut-être pour avoir peut-être un petit contrat, enfin, qu'elles soient indépendantes et puis ne pas dépendre trop des hommes, qu'elles se prennent en charge aussi. Elles doivent voler de ses propres ailes. Au niveau de Port-Bouy, comment les dames peuvent arracher ce petit contrat pour pouvoir s'assumer, élever les enfants, c'est très important.
Alors vous êtes à New York, vous avez une vie entre New York et Abidjan et vous profitez de votre position d'une part personnellement pour faire carrière et être présente dans les sphères diplomatiques, mais d'autre part pour apporter vos connaissances sur le terrain.
Tout à fait. Ça fait 5 ans que je faisais ça, mais je suis venue, je n'ai pas pu les suivre. Quand je suis allée, j'ai essayé de faire une réunion, de voir si elles n'avaient pas oublié ce que je leur avais montré. Et là, avec ce que j'ai appris à l'ONU, je suis allée encore augmenter cette petite connaissance-là.
Est-ce que vous avez vu un changement concret ou des résultats concrets suite à vos efforts au cours de ces années?
Ah oui, j'ai vraiment vu le résultat positif. C'est pour ça que d'ailleurs qu'elles me sollicitent. Et je dois repartir pour ça.
Je vous souhaite bon courage.
Merci.
Et c'est avec la diplomate ivoirienne Lucie Fentakoeta que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine aux femmes dans la diplomatie. Ce magazine a été préparé et présenté par Christina Silvero avec la complicité radiophonique de Florence Westergaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.